Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Toute l'actu, toute l'info en direct, votre journal présenté par Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. La réplique d'Israël contre l'Iran ce matin. De fortes explosions ont été entendues dans la nuit en Iran. Pas de dégâts majeurs, assurent les Iraniens. Les Israéliens ont informé les Américains de leur attaque. Des vols sont suspendus, les cours du pétrole s'envolent.
Et puis notez que le général Pellistrandi, consultant défense de BFM TV, sera en direct avec nous dans ce studio juste après votre journal, Quentin, pour tout comprendre à cette riposte israélienne.
On reviendra sur le message de fermeté de Gabriel Attal hier soir qui veut rétablir l'autorité auprès des jeunes et que tous les mineurs soient jugés comme les majeurs, les mineurs de plus de 16 ans. Et on reviendra aussi sur la soirée des clubs français en Coupe d'Europe de football. Marseille en demi-finale de Ligue Europa en éliminant Benfica et Lille éliminée de Conference League face à Aston Villa.
C'est donc l'info de la nuit, Israël a riposté.
Oui, moins d'une semaine après l'attaque inédite des Iraniens, eh bien, les Israéliens ont répliqué cette nuit, Johanna Shabbas, en attaquant les Iraniens sur leur sol.
Oui, selon le New York Times, des officiels israéliens confirment une attaque sur l'Iran. Plusieurs explosions ont été entendues près d'Ispahan, dans le centre du pays. C'est une région où l'Iran produit de l'uranium. D'après les médias américains, Israël avait prévenu les États-Unis de cette riposte. Washington, qui n'a pas approuvé cette opération. Mais selon Téhéran, les fortes explosions viennent de la destruction de 3 drones près d'une base militaire. Il n'y a eu aucun dégât à grande échelle, selon l'agence de presse officielle du pays, et pas d'attaque de missiles. Les installations nucléaires seraient totalement en sécurité et aucun accident n'a été signalé. Les vols commerciaux ont été un temps annulés dans plusieurs aéroports du pays avant de reprendre ce matin. Mais cette attaque sème le trouble dans la région. Des sirènes d'alerte ont retenti dans le nord d'Israël et le cours du baril du pétrole américain a bondi de 3% dès l'ouverture des marchés asiatiques.
Avec en toile de fond, vous le savez bien, la crainte d'un embrasement. D'ailleurs, des explosions ont été entendues au même moment cette nuit dans le sud de la Syrie. L'autre information de la nuit, ce sont les États-Unis qui ont bloqué l'adhésion pleine et entière des Palestiniens à l'ONU, condamnation immédiate du Hamas et de l'autorité palestinienne. Il est 7h02 sur RMC. Gabriel Attal, donc, veut rétablir l'autorité auprès des jeunes, serrer la vis à l'école en ciblant les élèves perturbateurs. Le Premier ministre, qui était à Viry-Châtillon hier matin et sur BFM hier soir pour ses 100 jours à Matignon, propose des sanctions sur les diplômes, brevets, bac, CAP et des mentions dans les dossiers Parcoursup de ces élèves perturbateurs. Vous entendrez tout à l'heure à 7h30 le scepticisme des syndicats. Et après les récentes affaires impliquant des adolescents, Gabriel Attal veut durcir la réponse pénale, faire des jeunes de plus de 16 ans des justifiables écoutés comme les autres.
Moi je suis prêt, dans le cadre de la discussion qu'on aura, à regarder comment atténuer, dans certains cas, ce qu'on appelle l'excuse de minorité. Et à regarder, c'est une deuxième porte que j'ai ouverte, la mise en place d'un système de comparution immédiate.
Voilà, donc que tous les mineurs de plus de 16 ans soient jugés comme les majeurs. Ça, c'est l'idée, Alfred Orange, mais ça paraît compliqué.
Exactement. Déjà parce que l'excuse de minorité est un principe juridique fondamental à valeur constitutionnelle. Pour revenir dessus, il faudrait donc consulter le Conseil constitutionnel, car la loi protège les mineurs et leur permet, pour un même fait, d'encourir une peine allégée par rapport à un majeur. Autre mesure voulue par le Premier ministre, généraliser la comparution immédiate à partir de 16 ans pour accélérer les jugements. Mais pour Myrtis Vinard-Roudière, juge pour enfants à Bobigny et membre du syndicat de la magistrature, cette mesure ne répond à aucun besoin.
On n'est pas dans un écart, soit c'est tout de suite le jour même, soit c'est dans 5 mois. Il y a une procédure déjà qui existe, qui s'appelle l'audience unique, qui permet de juger dans un délai de 10 jours à 1 mois, en attendant d'être placé sous contrôle judiciaire, voire même en détention provisoire. Donc on n'est pas sur une absence totale de réponse aujourd'hui.
Cette magistrate pointe aussi le manque de moyens pour assurer ses nouvelles missions et craint de voir la justice pour mineurs basculer dans le tout répressif.
Le scénario du guet-apens se précise à Grande-Synthe, 3 jours après la mort de Philippe, 23 ans, roué de coups sur un parking du centre-ville par 2 suspects de 14 et 15 ans qui assurent, lors de leur garde à vue, qui assurent avoir, lui avoir tendu un piège sur un site internet. Un rassemblement en hommage à Philippe est prévu ce matin à Grande-Synthe. Cette affaire à Toulon, où un vieil homme de 91 ans est mort le mois dernier, pendant une opération place nette de la police. Alors les circonstances sont encore floues, mais la fille de ce nonagénaire explique que la police venait interpeller le petit-fils du vieux monsieur et que durant l'intervention, eh bien, la porte blindée l'a heurté en tombant, hein, Cassandre Brault.
C'est une voisine qui racontait à Salia comment les policiers se seraient introduits dans le domicile de son père.
Ils sont arrivés à 6h, ils ont dû frapper. Mon père n'entend strictement rien. Quand la porte a voulu tomber, la porte s'est effondrée sur mon père. 91 ans, qui l'a mis au sol.
Le temps de se rendre à l'hôpital, il est déjà trop tard. Saléa n'a pas eu le temps de dire au revoir à son père.
C'est une horreur. Et voir mon père mourir comme ça, j'ai envie d'hurler à la mort. L'injustice.
Et ce qui met cette mère de famille encore plus en colère, c'est de rappeler l'engagement de son père pour la France.
Il était fier de ce qu'il représentait. Il a fait la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine. Mon père s'est battu pour la France. Il a construit pour la France. Mais la France l'a tué. Voilà le remerciement.
Le jour du drame, Saléa raconte que le procureur de Toulon est venu présenter ses excuses, mais elle a quand même déposé plainte hier pour homicide involontaire. Et son avocate, Maître Lola Dubois, ne compte pas s'arrêter là.
On souhaite qu'il y ait une enquête qui soit diligentée. On souhaite que les services interpellateurs soient auditionnés. En réalité, on souhaite chercher les responsabilités, si responsabilité doit être recherchée de la police.
Le père de Saléa a été rapatrié en Algérie, où il a été enterré auprès de sa femme.
Sachez que le week-end sera chargé sur la route avec le début des vacances ce vendredi dans la zone B. Marseille, Nice, Nantes, Rennes, Lille, Strasbourg. C'est un vendredi qui est classé orange près de la Méditerranée, où on a vibré hier soir. Écoutez l'ambiance à Marseille au stade Vélodrome. Magnifique communion entre les joueurs et le public de l'OM qui s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa en éliminant le Benfica Lisbonne au tir au but hier soir. Les Marseillais de Jean-Louis Gasset avaient arraché la prolongation en marquant à 10 minutes de la fin. Énième rebondissement dans la saison marseillaise.
J'étais venu pour des matchs comme ça. Et se qualifier pour une demi-finale de Coupe d'Europe devant notre public, c'est quelque chose de magique. Ce groupe a quand même de la moelle, qui a quand même des guerriers. On le fait pas voir tout le temps, mais dans les grandes occasions, ils sont là.
Et demi-finale de Ligue Europa les 2 et 9 mai prochains contre l'Atalanta Bergame qui s'est qualifiée comme la Roma et Leverkusen. Ça fait 2 sur 3 pour les clubs français en Coupe d'Europe cette semaine parce que la mauvaise nouvelle, c'est Lille qui s'est fait éliminer en Conference League au tir au but contre Aston Villa et comme à la Coupe du Monde au Qatar. C'est le gardien argentin des Anglais, Emiliano Martinez, qui a encore été le bourreau des Français. Hué pendant tout le match, chambreur à la fin, écoutez avec Jean Baumel.
Les 45 000 supporters lillois attendaient Emiliano Martinez de pied ferme. Impuissant sur les 2 buts de Yaziche et André, le gardien argentin a en revanche fait le show pendant la séance de tir au but. Danse devant les tribunes, discussion avec les tireurs lillois, tenter de déstabiliser ses adversaires, une habitude pour le très chambreur gardien champion du monde. Jonathan David, attaquant du LOSC.
Il aime déconcentrer, comme on l'a vu sur le premier tir qui court pour aller chercher le ballon quand il doit juste aller dans son but. Pour lui, c'est un jeu tactique.
Olivier Létang, le président lillois, regrette l'attitude du gardien d'Aston Villa.
Puisqu'on passe du temps à parler de ce garçon qui a une attitude qui n'est pas celle d'un sportif de très très haut niveau, je trouve. Dans la défaite ou dans la victoire, il faut rester calme, élégant.
Sous les sifflets et les insultes qu'il a subies, Emiliano Martinez préfère relativiser.
À Arsenal, comme à Aston Villa, j'ai joué avec beaucoup de Français. Ce sont des personnes formidables, je les aime, mais évidemment, quand vous jouez contre eux, il n'y a plus d'amis. Je veux simplement être bon pour mon pays ou pour mon club.
Comme en finale de la Coupe du Monde, le gardien de l'Argentine a brisé le rêve de supporters français.
Ouais, avec
encore une fois.
Les enfants lillois qui pleuraient hier au stade. Il y en a marre de ce gardien argentin.
Bourreau Martinez, il a été bon après. Pas lui enlever ça. Mais oui, encore une fois.
Il a arrêté de pénalty.
Encore une fois, il a encore fait pleurer des supporters français. Bon, heureusement, du côté de l'OM ce matin, on sourit. Il y a des petites voix. On l'entend aussi au 32-16. N'hésitez pas, supporters marseillais, à venir partager votre joie de cette qualif en demi-finale. Ça se passe évidemment ce matin sur RMC, tout comme le prochain journal de Quentin Vinet.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure à 8h. Il est 7h09.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Israël a frappé l'Iran cette nuit. Des sites militaires visés, faut-il s'en inquiéter? Comment comprendre cette riposte israélienne? Le général Jérôme Pellistrandi est en studio avec nous dans un instant pour nous donner les dernières infos.
RMC, Apolline Matin,
Charles Magnin.
7h11 sur RMC.
Le témoin RMC.
témoin RMC ce matin, c'est vous, le général Jérôme Pélistrandi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant à Défense à BFM TV, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Merci d'être avec nous ce matin, car cette nuit, Israël a répliqué, après l'attaque, on s'en souvient, du week-end dernier, des drones iraniens visant le sol israélien. Cette nuit, les Iraniens disent que des cibles militaires ont été visées, notamment à proximité de sites nucléaires. Alors attention, ce n'est pas Téhéran, la capitale, qui a été visée, mais la ville d'Ispahan, au centre de l'Iran, c'est ça? Comment il faut le comprendre?
Ispahan, c'est justement, comme c'est au centre, ça permet, il y a beaucoup d'installations militaires, dont des aérodromes et voilà, ces bases qui, visiblement, ont fait l'objet de ces frappes cette nuit, sachant qu'il y a également des installations nucléaires dans le coin, mais visiblement, ce n'était pas la cible.
Si vous dites visiblement, c'est parce que pour l'instant, les principales infos nous viennent des médias iraniens, donc à prendre avec des pincettes. On parle pour l'instant pas de missiles, mais de drones, hein, c'est ça qui aurait été envoyé? Alors,
là aussi, il faut rester prudent parce que il faudra vraiment avoir plus de confirmations sur le type d'engin. En tout état de cause, visiblement, c'était ces installations qui étaient ciblées. Et donc, drone ou missile, en tout état de cause, ça a été efficace.
On nous parle aussi de frappes israéliennes visant la Syrie. Qu'est-ce qui peut être visé en Syrie?
Alors, il faut savoir qu'en Syrie, il y a des milices pro-iraniennes, certaines dépendant également du Hezbollah. Et donc, ce sont ces milices chiites qui ont été visées. Mais là, je dirais que c'est assez classique. Régulièrement, Israël frappe le territoire syrien et frappe notamment ces milices pro-Téhéran.
Et les soutiens de l'Iran qui sont Absolument. Basés en Syrie. On a beaucoup redouté, on a beaucoup parlé de possibles escalades ces derniers jours. Est-ce qu'on y est là ou est-ce que c'est une réponse... comment dire, une riposte proportionnée, ciblée?
Elle me semble, à cette heure-là, proportionnée et ciblée. C'est-à-dire que, contrairement à samedi dernier, où les Iraniens ont je veux dire, balancé énormément, plus de 300 drones et missiles, là, visibles sur tout le territoire, 99% ayant été interceptés, là, c'est vraiment ciblé, autour d'Ispahan, sur des installations militaires. Bon, il va falloir attendre, effectivement, savoir... quelle est l'ampleur des dégâts?
Parce que je vais préciser que pour l'instant, du côté d'Israël, le gouvernement ne fait aucun commentaire. Encore une fois, les seules infos nous viennent du côté de l'Iran. Quel rôle pour les Américains? On nous dit que les Américains ont été informés, mais n'ont pas donné leur aval pour cette opération.
Alors, on sait que les relations entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou ne sont pas très simples. Bon, mais visiblement, effectivement, les Israéliens ont averti les Américains. Ils ont dû notamment leur dire là où ils allaient frapper, parce qu'il faut bien comprendre que dans ce genre d'opération, il y a aussi des installations américaines dans la région, et donc il y a un dialogue stratégique permanent.
Est-ce qu'on peut considérer que c'est une opération qui est finie d'un point de vue militaire? Quand on est militaire israélien, on a prévu de frapper, c'était aux alentours de 4h, 4h30 ce matin. Est-ce que ça va durer toute la journée, les jours qui viennent, ou est-ce que c'est une opération ciblée, timée, j'ai envie de dire, qui est close désormais?
Vous avez raison, a priori, c'est terminé. Donc, c'était la réplique. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est maintenant la réaction de Téhéran. Est-ce que Téhéran va vouloir surenchérir là-dessus, ou est-ce qu'ils vont, en quelque sorte, considérer que ça clôt le chapitre qu'ils avaient violemment engagé, donc il y a une semaine?
Oui, Téhéran qui minimise, en tout cas, qui assure qu'il n'y a pas de dégâts, notamment sur les installations nucléaires. Une dernière question générale, parce qu'il y a la situation militaire là-bas, et puis il y a les conséquences qui vont nous impacter directement dans les heures et les jours qui viennent. C'est sur le prix du pétrole, là. Ça va grimper, c'est ça qu'il faut surveiller aujourd'hui.
Oui, il y a déjà une petite hausse sur le cours du baril, notamment à Tokyo, décalage horaire oblige. Il va falloir voir, effectivement, c'est peut-être juste un petit accès de fièvre en quelque sorte, et puis ça va redescendre.
Oui, on a vu plus 3% cette nuit, mais ça peut monter dans les heures qui viennent.
Ça peut monter comme ça peut se stabiliser. En fait, tout va dépendre de qu'est-ce qui va se passer dans les heures et jours à venir.
Merci encore, Général Pélistrandi, consultant défense à BFM TV, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, d'être venu avec nous ce matin décrypter, tenter de comprendre cette riposte israélienne qui, je le rappelle, a eu lieu aux alentours de 4 heures. C'est l'info de la nuit. Et grâce à vous, Général Pélistrandi, on comprend mieux le sens de cette riposte cette nuit de l'armée israélienne. Ces explosions entendues dans le centre de l'Iran, du côté de la ville d'Ispahan. Il est 7h16 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
évidemment sur RMC à suivre le journal de 7h30. On continue à suivre la situation en Iran. Vous aurez les toutes dernières infos dans le journal de 7h30. Et puis ensuite, à 7h40, la souveraineté et l'industrie française à nouveau en danger. Le laboratoire français Biogarant, leader des médicaments génériques, est à vendre et il intéresse particulièrement les Indiens. Est-ce que l'État, est-ce que le gouvernement a les moyens d'empêcher nos médicaments de passer sous pavillon étranger? Eh bien, le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, a choisi RMC pour répondre. Il sera mon invité dans 20 minutes maintenant. Ce sera en direct, ne le manquez pas. Et puis tout de suite, c'est le 7h20 d'Apolline Matin. Victor Joannin pour l'économie, Guillemette Franquet qui s'engage avec vous. Et puis évidemment, Arnaud Demange pour nous faire sourire. C'est dans un instant.
Apolline Matin.
Les indiscrets RMC.
Les coulisses de l'actu, c'est avec vous, Inès Zegloul, ce matin. Bonjour Inès.
Bonjour Charles.
Alors depuis un an, la loi plafonne la rémunération des médecins intérimaires. C'est très précis, hein, 1 390 € brut maximum pour 24 heures de garde. Et depuis ce plafonnement par la loi, eh bien les médecins mercenaires, comme on les surnommait, ont quasiment disparu.
Et effectivement, les gardes à 3 000 € les 24 heures semblent être révolues. C'était l'objectif du gouvernement et l'ancien ministre de la Santé, François Braun, qui était en poste au moment de la mise en place de ce plafonnement, s'en félicite. Alors il y a eu quelques mois difficiles au début, reconnaît-il, notamment quand les médecins intérimaires ont fait grève pour protester contre la loi RIST. Des services sont même parfois restés fermés, mais depuis, la situation s'est améliorée, notamment grâce à la multiplication d'un contrat de remplacement, le contrat de type 2, c'est son nom. Il est prévu pour attirer des médecins sur des remplacements de longue durée, comme un congé maternité par exemple, et il prévoit des conditions de rémunération plus intéressantes en plafonnant notamment le salaire annuel à ce que gagne un praticien en fin de carrière, de quoi créer des tensions avec certains titulaires. Concrètement, pour une garde de 24 heures, une médecin urgentiste me dit toucher 1 760 € brut avec ce contrat, et avant le plafonnement de la loi RIST, elle gagnait plus de 2 000 € en intérim. Impossible en revanche de savoir combien de contrats de ce type ont été signé en un an. Le ministère de la Santé reconnaît, je cite, une croissance notable qu'il convient de suivre avec vigilance, voire de juguler. Mais la chef d'un service d'urgence et le directeur d'une agence régionale de santé me confiaient y avoir recours que très rarement pour des durées de 24 heures ou 48 heures.
RMC, Apolline Matin, le 7h20.
Charles Magnin.
Et oui, c'est parti. Toute l'équipe du 7h20 vient de s'installer autour de la table. À mes côtés, Guillemette Franquet pour RMC S'engage, Victor Joannin pour l'économie. On va aussi sourire avec Arnaud Demange. Bonjour à tous.
Bonjour.
Oh, magnifique. On commence mieux avec
on va sortir un album.
Ah, du papier à musique. Guillemette, ce matin, vous nous reparlez des vitraux du prêtre pédocriminel Louis Ribe.
Oui, un abbé décédé il y a 30 ans. Entre les années 50 et 90, Louis Ribe a fait poser des enfants dans son atelier dans le Rhône. Après sa mort, des centaines d'entre eux l'ont accusé d'agression sexuelle et de viol. Des faits que la justice n'a jamais pu juger, mais que l'Église a reconnus. Certains de ces vitraux, inspirés de ces scènes d'horreur, décoraient des églises près de Lyon. 6 au total. 3 mairies les en ont fait retirer, dont la dernière en date, il y a 3 jours, à Charlie. Des victimes du prêtre Louis Ribe sont venues assister à la dépose. Parmi elles, Annick.
Ça nous permet à tous, finalement, de retrouver un semblant de sérénité, parce qu'on a été entendus. C'est quand même énorme. Oui, enfin.
À ce jour, 50 victimes, comme elle, comme Annick, ont porté plainte.
Et pourtant, il reste 3 églises ornées de vitraux de ce prêtre pédocriminel.
Oui, Loire-sur-Rhône, qui s'est engagée à les retirer d'ici fin juin. Caluire, elle le fera fin août, début septembre. Et Givors qui refuse catégoriquement de les retirer. Pour les victimes comme Annick, c'est intolérable.
Qu'est-ce qui l'empêche de faire cette dépose? Parce qu'on lui demande finalement pour avoir un semblant de réparation, de justice qu'on n'aura jamais.
Ça fait un an que nous, au sein de notre cellule RMC S'engage avec vous, on échange avec le maire de Givors, Mohamed Boudjet là-bas. Il n'a pas répondu à nos dernières sollicitations et il refuse désormais de parler avec le diocèse de Lyon qui pourtant, lui, soutient le retrait des vitraux.
Mais comme d'habitude, Guillemette, vous n'avez rien lâché.
Évidemment, avec Solène Leroux, nous avons interpellé tous les élus du coin, le Grand Lyon, les sénateurs, le député, jusqu'à Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes. Le parti a en effet soutenu le maire de Givors au municipal de 2020. Et le parti pourrait prendre une décision radicale. C'est une info RMC. Si Mohamed Boudjelaba ne plie pas, les écologistes envisagent de lui retirer leur soutien pour les prochaines municipales dans 2 ans. Bon, nous, évidemment, on continue à suivre de très près ce dossier. Et surtout, on espère que le maire de Givors finira par accéder à la demande des victimes.
Évidemment, vous ne lâcherez rien dans ce dossier comme dans tous les autres. On rappelle d'ailleurs l'adresse pour vous contacter, Guillemette, avec toute l'équipe, une adresse mail RMC avec vous, @rmc.fr. On passe à l'économie avec Victor Joannin. Et ce matin, vous revenez sur les déclarations du patron de Michelin, Florent Ménégaud, qui annonce la généralisation d'un salaire décent pour tous les salariés de son groupe, un leader mondial du pneu.
Oui, et ce salaire décent, c'est quoi? C'est d'abord l'idée que le SMIC n'est pas suffisant pour vivre. Ce salaire décent doit permettre à une famille de 4 personnes de se nourrir, se loger, se soigner, mais aussi d'assurer les études de ses enfants, se constituer une épargne et en garder un peu plus pour les loisirs et les vacances. Et c'est un salaire plancher qui dépend du lieu de résidence. Elle est là l'innovation. Il reste proche du SMIC dans les petites villes où la vie est moins chère. Il s'élève à 25 400 euros bruts annuels, prime fixe et 13e mois inclus, c'est-à-dire 1677 euros net par mois à Clermont-Ferrand, là où se trouve le siège du groupe, et 40 000 euros bruts annuels à Paris. C'est près de 2 fois le SMIC.
Et Michelin, en fait, n'est pas la première entreprise à mettre en place ce salaire décent.
Non, plusieurs géants mondiaux comme Danone ou L'Oréal. L'Oréal aussi qui s'est engagé à le mettre en place chez ses fournisseurs d'ici la fin de décennie. Vous me direz, c'est facile quand on est un fleuron du CAC 40, mais c'est pas forcément généralisable. Les dirigeants, ils disent, c'est l'inverse en fait. C'est pas parce que vous êtes prospère que vous devez bien payer vos salariés. C'est parce que vous payez bien vos salariés que vous devenez prospère. Il y a rien de révolutionnaire. Henry Ford le faisait déjà il y a un siècle dans ses usines de construction automobile. Et derrière tout ça, l'objectif, c'est d'attirer les candidats, c'est de fidéliser les salariés dans l'industrie. C'est très tendu. Il y a des pénuries de main-d'œuvre. Donc il y a un fait de com aussi qui joue.
Un salarié qualifié, fidèle et motivé, bah oui, il faut bien le payer. Mais c'est ensuite tout bénef aussi pour l'entreprise. Arnaud Demange ce matin. Oui. Le face-à-face, c'est Neyla Latrousse qui reçoit la présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée, Mathilde Panot.
Une matinée placée sous le signe du rire. Mathilde Panot qui viendra nous raconter ses meilleures blagues belges à 8h30. Non, oui. Je plaisante, hein, Mathilde Panot. C'est quand même le genre rigoureux, on va le dire comme ça. C'est rare qu'à l'Assemblée, on dise « Oh, voilà encore Panot la déconne !» Mathilde Panot qui vient d'ailleurs d'officialiser son couple avec un joueur du PSG, Charles. Vous en avez peut-être entendu parler, du Carlos Soler. Vous n'avez pas entendu parler du couple Panot Soler? Voilà, ça c'est le genre de blague qui fait pas du tout rire Mathilde Panot. Néanmoins, on peut comprendre sa colère ce matin. Elle est en colère puisque la conférence sur la Palestine que devaient donner Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon a été annulée une deuxième fois. Alors, Emmanuel Macron a dit que tout le monde devrait s'exprimer. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une censure digne d'une république bananière. Jean-Luc Mélenchon, il a même tweeté aux cafards qui ont voté pour les pesticides contre les fourmis, un message. Même les abeilles qui se sont abstenues en sont mortes. Voilà, prenez ça dans la gueule, Jean-Claude Van Damme et Karim Benzema. Il manquait juste une story avec une photo d'abeille morte sur un soleil couchant. Alors Rima Hassan, on en parlait hier, est favorable à une solution à un État qu'on appelle parfois l'Israël. Vous vous souvenez, on en a parlé. C'est la fusion Israël-Palestine et ça inspire plein de peuples dans le monde, y compris dans la région. Par exemple, le Suriname revendique des territoires de l'ancienne Mésopotamie et propose de créer une fusion Suriname-Mésopotamie. Le Surimi, un pays qui vivra principalement de la pêche. Attention, j'en ai un autre. Les érotomanes du Honduras proposent de fusionner avec les nymphomanes de Russie en créant le Hondurci, c'est normal. Oh, bon. Et enfin, le Nicaragua et le Timor s'affrontent au point que ce serait même pas une bonne idée de créer le Nick Timor. Oui. Voilà, on reviendra sur cette affaire avec Mathilde Panot à 8h30.
Entre autres. Ce sera donc face à Neyla Latrousse, le face-à-face, 8h30, Mathilde Panot. Et on vous retrouve d'ici là, à 8h20, à tout à l'heure. Arnaud, tout de suite, la météo et le journal sur RMC. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Toute l'info en direct, votre journal, présenté par Solène Leroux. Bonjour Solène.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Victoire inespérée pour l'OM. Marseille a défié tous les pronostics en battant Benfica à domicile et retrouve les demi-finales de la Ligue Europa 6 ans plus tard. Des explosions entendues en Iran, riposte d'Israël cette nuit après des attaques inédites le week-end dernier par Téhéran. Nous serons à Tel Aviv dans quelques instants. Et le géant du médicament Biogarant est à vendre et pourrait être racheté à l'étranger, possibilité qui inquiète tout un secteur.
Semaine européenne de folie pour le foot français.
Le PSG mardi, l'OM hier, Marseille est en demi-finale de la Ligue Europa. 6 ans que ça n'était pas arrivé, une victoire loin d'être évidente. L'OM n'était pas favorite hier soir après un match aller peu rassurant. Mais l'Olympique a renversé la tendance jusqu'à cette victoire au tir au but. Un souffle d'air frais dans une saison loin d'être facile, Florent Germain.
Oui, cette saison olympienne a basculé dans l'irrationnel. Malgré un jeu bien pauvre, des blessures en pagaille et des minots appelés à la rescousse pour compléter l'équipe, l'OM a arraché sa place en demi-finale de Ligue Europa. L'attaquant olympien Pierre-Emerick Aubameyang savoure.
Ouais, scénario de dingue. Il n'y a que de la joie. Il n'y a que de la joie parce que aujourd'hui, avec les efforts qu'on a faits, je pense que c'est mérité. Tout le monde s'est battu, a donné vraiment tout ce qu'il avait au fond de lui-même. On sait que la saison a pas été simple. Mais voilà, il y a cette Coupe d'Europe qui est là, on va tout faire pour aller au bout.
Pour fêter cette qualification en demi-finale, le capitaine Samuel Gigot a même pris le mégaphone pour faire chanter le virage sud. Lui qui était fan de l'OM quand il était jeune, a fait le plein d'émotions hier.
C'est exceptionnel à titre personnel de vivre ce genre de moment. Je suis vraiment fier pour le groupe surtout. On est capable du meilleur comme du pire malheureusement. On s'accroche, on essaye de donner le meilleur. Ce soir on l'a vu, tout le monde a fini vidé, mais le plus important c'est cette qualification et ça donne de l'espoir.
L'OM se met à rêver d'un trophée européen. Il faudra d'abord éliminer l'Atalanta Bergame pour atteindre la finale.
Et prochain rendez-vous pour Marseille, le 2 mai, au Vélodrome. La joie pour l'OM, la désillusion pour Lille. D'abord victorieuse hier contre Aston Villa, le LOSC a concédé la défaite après une longue séance de tirs au but. Coup d'arrêt pour les Lillois aux portes des demi-finales, finale de la Ligue Europa Conférence.
L'info de la nuit, c'est Israël qui a riposté contre l'Iran.
Près d'une semaine après des attaques sans précédent de Téhéran, plusieurs explosions ont été rapportées tôt ce matin. Aucun dégât majeur n'est à déplorer pour l'heure d'après l'Iran. Des drones ont été abattus, mais pas de missiles, toujours selon Téhéran. Igor Saïri, vous êtes l'envoyé spécial de RMC et BFM TV à Tel Aviv. Israël a prévenu les États-Unis qu'ils allaient attaquer, mais non pour l'heure, rien n'officialisé.
Non, toujours aucun commentaire de la part de Tsahal, ni même des autorités ou de Benjamin Netanyahou. Tout ce que l'on peut dire pour le moment, c'est que les médias iraniens rapportent de fortes explosions dans la province d'Ispahan, près d'une base militaire, province qui abrite plusieurs sites nucléaires, mais immédiatement le système de défense aérien iranien a été enclenché. Les autorités iraniennes rapportent qu'il s'agirait de drones qui ont été abattus. Rien ne laisse penser qu'il s'agirait de missiles iraniens. Il n'y aurait aucun dégât d'après les médias d'État iraniens. Les bases nucléaires n'ont pas été touchées non plus et elles seraient en totale sécurité. Ce que l'on peut dire, c'est que l'espace aérien a été fermé en Iran. Rien en Israël en revanche, puisque les vols commerciaux continue ici d'aller et venir à Tel Aviv. On a entendu en revanche des sirènes d'alerte dans le nord du pays, mais comme cela arrive quotidiennement ces derniers jours, mais rien de plus pour le moment.
Et cette autre information, les États-Unis bloquent l'adhésion pleine et entière des Palestiniens à l'ONU. Décision immédiatement condamnée par le Hamas et l'autorité palestinienne. Biogarant pourrait passer sous pavillon étranger. Le géant français du médicament est en vente. Il produit 50% de sa production en France et emploie près de 9000 personnes. Deux entreprises indiennes sont intéressées. Vrai coup dur pour l'État qui souhaite relocaliser son industrie de la santé. Cette possible acquisition inquiète dans le secteur, Pierre Bourgès.
Évidemment, cette éventuelle cession interroge Jean-Louis Perrin, coordinateur de la branche industrie pharmaceutique de la CGT.
Ça fait poser la question de la souveraineté. On peut bien imaginer que les productions risquent fortement de partir à l'étranger, notamment certainement en Inde. Derrière, on sait très bien qu'on rencontre des pénuries d'approvisionnement des pharmacies par manque de production de principes actifs.
Ce sont aussi des milliers d'emplois qui pourraient être menacés par des délocalisations, mais selon Frédéric Bizard, économiste de la santé, avec la lourdeur des taxes et le manque de compétitivité, les industriels pharmaceutiques ne peuvent que réduire leurs investissements en France depuis une dizaine d'années.
Il est assez normal que nous soyons balayés. Les Indiens comptent aussi bien que nous en matière de chimie fine. Et ils font ça
fois, de façon 3 à 4 fois moins cher que nous. Si nous ne nous réveillons pas en prenant conscience des dysfonctionnements de notre système de santé, je ne vois pas comment est-ce que dans 10 ans, nous pourrions présenter quoi que ce soit en matière de développement et de production industrielle pharmaceutique.
Le ministre de l'Industrie a indiqué hier suivre de près le dossier et se réserve le droit d'activer une procédure permettant de contrôler les investissements étrangers dans l'entreprise.
7h35 sur RMC. Gabriel Attal était l'invité de BFM TV hier soir, 100 jours après son arrivée à Matignon. Il est longuement revenu sur ses annonces du matin à propos de la violence entre les jeunes. Et Gabriel Attal veut agir avec un seul mot à la bouche, l'autorité. Gabriel Attal veut notamment sanctionner les élèves perturbateurs, voire les pénaliser sur leur diplôme. Pour Sophie Venetite, secrétaire générale du syndicat SNES-FSU, insister sur la répression, ce n'est pas la bonne méthode.
La façon d'aborder les choses de la part de Gabriel Attal se fait essentiellement sous l'angle de la sanction et jamais de la prévention. On sait que c'est une façon de faire qui marche pas forcément, hein, à agiter le bâton. On sait très bien que c'est pas ce message-là qui fonctionne auprès des élèves. Quelque part, ça étiquette l'élève très tôt dans sa scolarité, étiquette dont il aura après du mal à se départir, alors que après tout, tout le monde a le droit à une seconde chance. Et la clé, si on veut ramener de la sérénité, si on veut faire respecter les règles dans les établissements, c'est quand même d'avoir plus d'adultes.
Ça, c'est pour le volet éducatif, mais Gabriel Attal a également lancé un grand chantier hier, le durcissement de la justice pénale pour les mineurs.
Et puis on termine avec les courses solennes aujourd'hui, ça sera sur l'hippodrome de Vincennes.
Le favori de la Dream Team RMC, c'est le 5, Isabella Ferme, le 12, Icône d'avenir et l'Outsider, le 5 et le 12. Course à suivre à 20h15 sur RMC Découverte.
C'était le journal de Solène Leroux, il est 7h37 sur RMC.
RMC, 6h39h,
Apolline Matin.
Et on en parlait à l'instant dans le journal de Solène, un géant pharmaceutique français pourrait bientôt passer sous pavillon indien. Le laboratoire Biogarant numéro 1 du générique est en vente et pourrait être racheté par l'Inde. Coup de pression de l'entreprise qui emploie près de 9000 personnes, qui dénonce aussi des prix trop bas pour les médicaments en France. Bonjour Roland Lescure.
Bonjour.
Vous êtes le ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Dans un instant, vous nous direz si le gouvernement a les moyens d'agir dans ce dossier. Vos réponses, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
Charles Magnin.
7h40, vous êtes bien sur RMC, on va tout de suite ouvrir notre armoire en pharmacie.
L'invité du jour.
Avec Roland Lescure, bonjour.
Bonjour.
Ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Et justement, c'est un leader de l'industrie française qui pourrait passer sous pavillon étranger, le laboratoire Biogarant, qui appartient au groupe Servier et qui fabrique un tiers des médicaments génériques en France. Autrement dit, tous les Français ont chez eux sûrement des médicaments fabriqués par Biogarant, mais on l'a appris hier, Biogarant est à vendre. 4 repreneurs seraient sur le coup, dont 2 labos indiens. Ce sont plus de 8000 emplois sur le sol français qui seraient menacés, sans parler de notre souveraineté en matière de médicaments. Alors Roland Lescure, est-ce que le gouvernement, est-ce que la France peut s'opposer potentiellement à cette vente de Biogarant à des capitaux, à des labos étrangers ?
Bon, d'abord, moi je la regrette, cette vente. Moi j'ai dit clairement au laboratoire Servier que je ne souhaitais pas qu'ils vendent Biogarant. S'ils souhaitent le faire, moi je serai extrêmement ferme et j'examinerai toutes les conditions qu'on peut imposer à une transaction dans 2 dimensions extrêmement importantes. La première, vous l'avez dit, il y a 1 générique sur 3 en pharmacie vendu en France qui est du Biogarant. Donc moi je souhaite évidemment que l'approvisionnement en médicaments des Françaises et des Français soit assuré. Et la deuxième, c'est la production. Il y a 39 sites industriels. Alors Biogarant ne produit pas en France, mais il y a 39 usines en France qui produisent pour Biogarant.
Oui. Donc moi, je souhaite les 8000 emplois sont en fait des sous-traitants de Biogarant.
Exactement.
Mais qui seraient directement menacés si un laboratoire indien rachète Biogarant et dit on rapatrie la production en Inde.
Aujourd'hui, l'amoxicilline générique, le doliprane générique, l'ibuprofène générique, tout ça, c'est fabriqué en France pour Biogarant et vendu en France dans les pharmacies. Donc à la fois l'approvisionnement et la production doivent être assurés. La question, c'est pas est-ce que l'acheteur, il est indien ou canadien.
Donc juste, Roland Lescure, qu'on soit clair, vous ne bloquerez pas par principe si un acheteur étranger, indien notamment, veut racheter Biogarant.
On a ce qu'on appelle la procédure investissement étranger en France qui nous permet de faire beaucoup de choses. Mais la question aujourd'hui, elle ne se pose pas dans ces termes. La question, c'est est-ce qu'on aura des médicaments en France et est-ce qu'ils seront produits en France. Hier, j'étais dans la Sarthe. Vous savez ce que c'est, ça?
Vous brandissez une paire de gants.
Ce sont des gants chirurgicaux faits dans la Sarthe. Ça fait 30 ans qu'on ne faisait plus de gants en Europe. Depuis hier, on fait des gants made in France. Et vous savez quoi? C'est un investisseur canadien qui va les fabriquer.
Donc vous n'êtes pas contre les investissements étrangers. Si un Indien veut racheter Biogarant, il pourra le faire, mais vous mettrez des conditions.
Vous savez ça. Ce qui m'énerve le plus dans cette histoire.
À quelles conditions un Indien, un laboratoire indien pourrait racheter Biogarant? Quelles conditions fixera l'État pour ce rachat?
Écoutez, vous savez ce qui... D'abord, vraiment, je vais répondre à votre question, mais ce qui m'énerve le plus, c'est que ça fait maintenant des mois qu'on met en place une politique proactive pour faire venir des grands laboratoires pharmaceutiques en France. Pfizer, AstraZeneca, Novo Nordisk, les Canadiens qui vont faire des gants chirurgicaux, ils viennent en France. Et c'est le moment que choisit le laboratoire Servier pour vendre. Donc ça, je le regrette. Ensuite, oui, cette procédure, elle nous permet de mettre des conditions drastiques. Un, pour assurer l'approvisionnement. Et deux, pour assurer que l'empreinte industrielle, que la production soit faite en France.
C'est-à-dire, vous direz aux Indiens, vous pouvez racheter Biogarant, mais on maintient l'emploi et surtout la production de médicaments en France. La France doit avoir le même niveau d'approvisionnement en médicaments.
Et l'approvisionnement, exactement. Donc ça, ça fait partie des conditions qu'on est prêt à mettre à une acquisition.
Vous dites pour qu'on est prêt à mettre, qu'on va mettre?
Non, mais pour l'instant.
Qu'on réfléchit à mettre.
Pour l'instant, il n'y a pas de transaction, il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de proposition. Moi, j'annonce aujourd'hui, je suis prêt à recevoir les acheteurs potentiels dans mon bureau pour expliquer les conditions auxquelles nous serions éventuellement prêts à regarder ce type de transaction.
Mais avant de recevoir les repreneurs, vous allez recevoir peut-être le Servier, non?
Ah, mais on les a reçus. Servier, on leur a dit qu'on était évidemment extrêmement contre en fait cette vente et que évidemment on le regrettait à un moment où, je le répète, la France est en train de devenir à nouveau attractive.
On sait pourquoi Biogarant ne veut plus produire en France de médicaments, pourquoi cette vente est envisagée, c'est parce que l'Inde aujourd'hui, on le sait, produit beaucoup moins cher. L'Inde est surnommée la pharmacie du monde. Le fond du problème, c'est le prix des médicaments en France. Le directeur général de Biogarant, Jérôme Viriotius, était sur ce plateau il y a quelques mois face à Apolline. Écoutez, il alertait déjà sur la question du prix.
Ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus avec les pouvoirs publics. Ça fait 3 ans qu'on met une pression positive pour essayer de sortir par le haut de tout ça, parce que justement les prix sont tellement bas en France sur les 20 pays qui ont été comparés l'année dernière. La France est au 14e niveau. L'Italie, la moyenne des médicaments est à 38% au-dessus du prix français.
Ça fait des années que Servier et Biogarant vous disent vous ne payez pas assez cher les médicaments.
Et vous savez quoi? On est justement en train de changer ça. C'est pour ça que je suis énervé aujourd'hui. Il y a un an, le président de la République a annoncé qu'on mettait en place une stratégie de relocalisation qui repose sur 3 leviers. Des subventions, des commandes publiques privilégiées et des prix privilégiés pour des produits fabriqués en France et en Europe. On est justement en train de changer ça. Il y a des entreprises mondiales aujourd'hui qui choisissent la France de fait de cette politique d'attractivité. Donc une entreprise française, au moment où ça change, choisisse de vendre son laboratoire générique, moi je le regrette. Maintenant, on va travailler, s'il continue à avancer avec cette transaction, avec les repreneurs potentiels, pour s'assurer que ces repreneurs-là, ils choisissent la France, à la fois les consommateurs français, qu'on ait des médicaments dans nos pharmacies, et les producteurs français, qu'on les produise chez nous.
Parce que le risque concret, ce sont les pénuries, les ruptures de stock. Si Biogarant change de pavillon, on entend bien les conditions que vous voulez mettre à cette vente. Mais Roland Lescure, là, ça vient complètement contrecarrer votre plan. Vous avez lancé un plan anti-pénurie il y a quelques semaines, une liste de 450 médicaments essentiels. Là, c'est toute la politique industrielle du médicament qui est remise en cause par cette vente.
Ben non, au contraire, j'allais dire, justement, ces conditions, elles sont cohérentes avec cette politique pour lutter contre les pénuries. Lutter contre les pénuries, c'est s'assurer à la fois qu'on innove et qu'on produit en France, qu'on livre et qu'on gère bien les livraisons dans les pharmacies, parce qu'aujourd'hui, il y a sans doute de l'optimisation à faire. Et cette politique, elle est en marche. On a aujourd'hui mis de la pression pour les industriels. On n'a pas entendu parler de pénurie de paracétamol cette année, alors que c'était le cas il y a un an. Oui. Parce qu'on a augmenté la production en France.
Mais notamment avec Biogarant. Mais si dans un an, Biogarant passe sous pavillon indien
c'est la raison,
et que les Indiens préfèrent vendre le médicament à d'autres pays, on peut avoir une rupture dès l'hiver prochain.
C'est la raison essentielle pour laquelle ces conditions seront drastiques.
Elles seront drastiques, vous n'y réfléchissez pas. Elles seront fixées, quoi qu'il arrive, pour le rachat.
Écoutez, si on vient voir avec une proposition, moi j'aurai des conditions.
J'aimerais vous entendre sur un autre exemple industriel. C'est le fabricant français de panneaux solaires, Systovi, qui est basé du côté de Nantes et qui a annoncé mercredi la fin de son activité. 87 salariés et le patron qui dit « ça fait des mois qu'on se bat, mais là on ne peut plus face au dumping chinois. C'est impossible d'être rentable en France en produisant du panneau solaire ». Là, c'est encore un échec pour l'industrie, la réindustrialisation française.
Écoutez, on a l'année dernière des entreprises qui ferment, des entreprises qui ouvrent. On a ouvert 200 usines de plus qu'on en a fermées. Donc malheureusement, oui, il y a des usines qui ferment. On est en train d'installer 2 gigafactories de panneaux solaires en France. Une à Sarreguemines, une à Fos. Donc malheureusement, il y a un enjeu de compétitivité pour Systovie. On regarde ça de près. On va voir si on peut trouver un repreneur, là aussi, avec des conditions de production en France. Mais aujourd'hui, je souhaite vraiment affirmer avec force qu'on est plus qu'au verre à moitié plein aujourd'hui. On ouvre des usines en France. Il y en a qui ferment, il y en a qui ouvrent. Il y en a 200 de plus qui ouvrent. On a créé 130 000 emplois industriels en France depuis 7 ans. L'industrie française est en train de renaître. Et donc je veux... Non mais j'insiste oui, vraiment là-dessus.
Pour vous, parce que d'où votre colère, j'imagine, vis-à-vis de Biogarant et de Servier, parce que l'image est catastrophique, là, ce leader français qui passerait sur le papier indien.
L'image importe peu, moi, c'est la réalité qui m'importe. Je veux qu'on produise en France et je veux qu'on puisse consommer en France.
J'ai envie de dire rendez-vous l'hiver prochain, on verra si ce labo est vendu et si ça a des conséquences dans nos pharmacies. J'ai une dernière question, Roland Lescure, vous êtes ministre de l'Industrie, mais aussi de l'Énergie. Oui. On a suivi cette nuit la riposte israélienne en Iran, conséquences immédiates sur le cours du baril et on le sait, le cours du litre est déjà très élevé en ce moment en France. Ça va forcément grimper dans les jours qui viennent. On approche de la barre symbolique des 2 euros. Bruno Le Maire avait promis de réactiver une indemnité carburant si on approchait de cette barre. Il parlait même de 1,95 le litre. Est-ce que vous plaidez pour une nouvelle indemnité carburant ?
Écoutez, on va suivre la situation. Comme vous le voyez, hein, ça bouge au jour le jour. Mais évidemment, on suit le cours du pétrole, on suit l'impact sur la pompe. On travaille aussi avec les distributeurs, vous le savez. Hein. Total s'est engagé à maintenir son plafond à 2 euros. Donc tout ça est suivi de très près. Je ne souhaite pas réagir de manière trop précoce à un événement d'une nuit dont aujourd'hui, tous non, les éléments ne sont pas...
Le prix du litre à la pompe, là, ça fait des semaines que ça grimpe.
Il est en dessous de 2 euros dans la majeure partie des stations aujourd'hui en France. Il est même assez nettement en dessous, encore dans des grands distributeurs qu'on connaît bien.
Il en approche. Donc, tant qu'on est en dessous des 2 euros, pas de geste de l'État.
On en reste là.
Merci. Ben voilà, les consommateurs vous ont entendu, en tout cas, ce matin.
Non, mais j'entends bien.
Mais c'est important de le dire. Non, mais c'est de fixer, en tout cas, cette barre. Et puis, je vous remercie surtout d'être venu réaffirmer. Biogarant pourrait être vendu, mais à des conditions que vous vous êtes venu fixer ce matin en direct sur RMC. Je vous remercie Roland Lescure, ministre de l'Industrie et de l'Énergie, d'avoir été en direct pour réagir ce matin donc à ce qu'on a appris hier, la mise en vente du labo Biogarant. Il est 7h50 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, c'est Expliquez-nous avec Caroline Philippe.
Et je vous explique ce qu'est l'excuse de minorité dont parlait Gabriel Attal hier.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus avec Seb, c'est à 6h du matin qu'on l'a découvert.
16 nouvelles chansons d'une méga star, Taylor Swift, qui vient de dévoiler son nouvel album, son 11e album qui est sorti à minuit, heure de New York, donc 6h du matin, heure française. Le Cercle des Poètes Torturés, de Tortured Poets Department, c'est le titre de ce nouvel album. Extrêmement attendu par ses millions de fans à travers le monde. La chanteuse country, méga star de la pop, qui est en train en même temps de mener sa tournée gigantesque à travers tous les stades de la planète. Et ses fans qui, depuis des jours, traquaient les indices partout sur les réseaux sociaux pour essayer d'en savoir plus sur ce nouvel album. C'est-à-dire que la star avait disséminé un petit peu des indices dans ses publications sur les réseaux sociaux. Et donc, ils sont en train maintenant d'écouter ces 16 chansons sorties cette nuit.
RMC, Apolline Matin.
7h53, expliquez-nous.
Expliquez-nous.
Avec Caroline Philippe. Hier, Caroline, lors de son déplacement à Viry-Châtillon, Gabriel Attal s'est dit prête à ouvrir le débat sur des atténuations à ce qu'on appelle l'excuse de minorité. De quoi parle-t-on précisément ?
Eh bien, c'est la philosophie même de la justice des mineurs. C'est un principe juridique posé en 1945 qui instaure les deux fondements de la justice pénale des mineurs, éduquer et protéger, car la justice considère qu'un mineur est un être en construction et donc qu'il ne peut être jugé comme un adulte. Concrètement, Charles, c'est la raison pour laquelle aucune peine ne peut être prononcée à l'égard d'un mineur de moins de 13 ans. Il est, par principe, considéré comme irresponsable pénalement. Ensuite, entre 13 et 18 ans, un jeune encourt une peine deux fois moins longue que pour des adultes. Mais un tribunal peut décider de lever cette excuse de minorité pour des jeunes entre 16 et 18 ans à titre
exceptionnel en prenant en compte les circonstances de l'acte et la personnalité du mineur. Dans ce cas, le tribunal doit motiver sa décision. C'est rarissime que ça arrive. Dans les faits, ces dernières années, cette excuse de minorité a été levée seulement deux fois.
Mais alors, que veut dire Gabriel Attal quand il parle d'atténuation ?
Alors, Gabriel Attal a donné une piste de travail hier soir sur BFM TV. Par exemple, pour des faits graves, le principe serait inversé et l'excuse de minorité deviendrait l'exception qu'il faudrait motiver. Dans la même logique, le Premier ministre veut aussi interroger la notion de majorité pénale. Dans certains cas, Gabriel Attal souhaiterait par exemple pouvoir envoyer des jeunes de plus de 16 ans en comparution immédiate s'ils ont commis des délits. C'est déjà le cas, comme c'est déjà le cas pour les plus de 18 ans. Sur ce dernier point, le syndicat de la magistrature rappelle toutefois qu'un système existe déjà pour juger plus rapidement des jeunes. C'est ce qu'on appelle l'audience unique, une procédure d'exception qui permet de juger des mineurs entre 10 jours et un mois. Dans ce cas, le juge peut même décider de placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.
Et c'est loin d'être la première fois que le débat sur une restriction de cette excuse de minorité revient sur la table.
Non, c'est même une ritournelle. Un exemple, en 2006, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, souhaite aussi revoir l'âge de la majorité pénale. C'est l'affaire Mama Galédou à Marseille qui déclenche sa réaction politique. Plusieurs jeunes incendient un bus, une étudiante sera grièvement blessée. L'émotion est vive partout en France et Nicolas Sarkozy y répond en l'évoquant, la levée de l'excuse des mineurs pour les récidivistes. Une loi adoptée à l'été 2007 instaure cette dérogation, mais l'excuse de minorité sera pleinement rétablie en 2014 avec la loi Taubira. Récemment, le débat refait surface avec l'affaire Shaina. Cette jeune femme poignardée, brûlée vive à l'âge de 15 ans à Creil par son ancien petit ami. Il était âgé de 17 ans au moment des faits. L'été dernier, ce jeune homme écope de 18 ans de réclusion criminelle et l'excuse de minorité est appliquée alors que l'avocat général avait demandé sa levée. Plusieurs voix du parti Les Républicains s'interrogent alors et demandent une remise en cause de l'âge de la majorité pénale. Cette fois-ci, c'est le Rassemblement National par la voix de Jordan Bardella qui le réclame après la mort de Chemseddine, 15 ans passé à tabac par plusieurs mineurs près de son collège.
Ça fait donc près de 20 ans maintenant qu'on en parle. Pourquoi cette excuse de minorité n'a jamais été abrogée ?
Eh bien parce que c'est un principe juridique à valeur constitutionnelle. Ça veut dire que cette excuse de minorité n'apparaît pas écrite noir sur blanc dans la Constitution, mais en revanche, ce principe est reconnu, protégé en quelque sorte par une décision du Conseil constitutionnel d'août 2002. Revenir dessus demanderait donc soit une réforme de la Constitution, soit un revirement de jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ça semble donc très compliqué.
Merci beaucoup Caroline. Philippe, expliquez-nous, c'est à retrouver aussi quand vous voulez en podcast sur l'appli RMC. Dans un instant, c'est la météo et votre journal de 8h sur RMC à la une, la riposte israélienne contre l'Iran. C'est l'info de la nuit, on vous explique tout dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.